Il y a plusieurs questions, mais on les verra la fois prochaine, puisqu'il faut avancer. On a essayé de préciser les différents éléments de la personne, ce qu'est une personne humaine. Dans une personne humaine, on retrouvera toujours ces éléments, l'aspect substantiel qui donne l'autonomie, l'intelligence qui cherche la vérité, l'amour, la volonté. Ces trois aspects sont capitales. Puis, le point de vue de la prudence, la petite sagesse sur notre petit monde, le point de vue de l'art, prudence et art font quelque chose de très important au point de vue personnel, l'équilibre entre les deux. Et le point de vue du corps, qui est quelque chose de substantiel aussi, mais second, c'est très curieux, quand au fond le corps intervient essentiellement pour notre personne humaine et n'est pas ce qui donne la finalité. Le corps est essentiel, il est fondamental, puisque quand on est trop fatigué ou quand on est malade, notre personne ne peut pas s'épanouir pleinement. Et la maladie peut arriver à la mort. Donc, fait que la personne humaine est obligée de se soumettre à ça. La personne, comme personne, ne meurt pas. Mais c'est quand même un gros coup pour la personne humaine, le point de vue de la mort. Qu'est-ce qui se passe après, hein? J'en sais rien. On peut mettre des hypothèses, mais on ne l'a pas vécu. Donc le philosophe est obligé de se taire. Le théologien peut dire que son âme immédiatement reçu par le Père. Le corps est remis à la terre en attente de la résurrection. L'état de séparation de l'âme et du corps est un état passager, très important, mais passager. Éternellement, notre corps sera uni à notre âme. Pour bien montrer l'importance de notre corps, mais philosophiquement, je ne peux pas le dire, mais théologiquement, je vois l'importance du corps, puisque de fait, Dieu veut que notre corps soit éternellement uni à notre âme. Parce qu'on pourrait très bien concevoir que le corps est uni uniquement sur la terre, puis qu'après c'est fini. Non. Et notre propre corps, évidemment, il sera complètement changé. Donc la psychologie de notre corps glorieux sera très différente de notre psychologie, de notre corps terrestre. Mais j'en ai pas l'expérience, donc je ne peux pas en parler. puis les agents. Nous avons vu ces éléments essentiels, ce serait la ratio de la personne. Maintenant, il faut voir la manière différente dont cette personne se situe. La première grande différence, c'est homme et femme. Et il y a vraiment deux types de personnes différentes. Ça fait la richesse de la personne humaine, du reste. La personne humaine implique les deux. Et sur Terre, les deux sont conjoints constamment. Pour qu'on comprenne mieux la personne humaine. Alors, il faut essayer de préciser ces deux types de personnes, celle de la femme, celle de l'homme. Alors, à l'intérieur de la femme et de l'homme, il y aura encore des diversités. Diversités secondaires qu'on verra ensuite. Ah, c'est pas la seule diversité, non. C'est la diversité fondamentale, puisque elle regarde la question générique du corps. Elle montre l'importance du corps, puisque de fait, cette diversité de l'homme et de la femme, diversité au point de vue du corps, est en vue de la procréation. Dans la lumière de la sagesse de Dieu. C'est que Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent avoir des enfants. À la différence des anges. Et au fond, le corps est pour cela, dans la vue de Dieu. Les anges n'ont pas de corps. Et les anges ne connaissent pas cette diversité-là. La personne angélique, je ne peux pas en parler au point de vue philosophique. Tous les philosophes ont été hantés par ça. Mais ils ne peuvent rien dire. Donc la diversité fondamentale au point de vue personne vient du corps. C'est pour ça que je dis que c'est une distinction secondaire. Elle n'est pas première. Nous ne sommes pas une personne premièrement par notre corps. Nous sommes personne premièrement grâce à notre âme. Mais le corps fait partie de notre substance. Notre corps n'est pas un accident. Il fait partie de notre personne. Et il est cependant second. Donc la distinction fondamentale entre l'homme et la femme, au point de vue personne, est une distinction qui ne va pas toucher les éléments essentiels de la personne. Il faut tout de suite voir ça. L'intelligence de l'homme, l'intelligence de la femme ne sont pas différentes spécifiquement. Elles sont différentes selon l'exercice. Et comme par l'exercice, nous acquérons des habitus, il peut se faire qu'il y ait par les habitus une très grande différence. Mais elle est du côté de l'exercice, pas du côté de la spécification. C'est important de se rappeler ça. Donc, du côté de la spécification, du côté de l'intelligence, il n'y a pas de différence. Du côté de la volonté, également. Mais comme la volonté est volonté du sujet, et que le sujet est homme et femme, il y aura une diversité plus grande du côté de la volonté entre l'homme et la femme. Et cette diversité, elle n'est pas spécifique. La volonté de la femme est aussi une volonté analogue, semblable à celle de l'homme, mais dans l'exercice, c'est très différent. Et c'est vrai. Et donc, au point de vue artistique, au point de vue de la prudence, par le fait même, il y aura une très grande diversité. La prudence de l'homme n'est pas la même que la prudence de la femme. Spécifiquement, elle est la même, mais comme la prudence est très orientée vers la pointe de la finalité, elle aura une modalité différente qui se répercute jusque dans l'art. L'art est différent chez la femme et chez l'homme. Pas spécifiquement. Alors vous voyez, c'est très curieux que vous retrouvez toujours cette distinction spécifique et la distinction du mode. C'est typique. Si vous ne faites pas cette distinction-là, vous mettrez deux mondes différents. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait ou deux mondes très différents ou deux mondes semblables. On n'a pas assez de subtilité pour distinguer que substantiellement c'est identique, mais au point de vue du mode, c'est-à-dire au point de vue de la manière de vivre, c'est différent. Parce qu'on tend aujourd'hui à faire que les manières de vivre soient les mêmes. Dans l'éducation à type mathématique, il n'y a pas une mathématique masculine et une mathématique féminine. Il n'y a pas une géométrie masculine, une géométrie féminine. Mais dans leur manière d'appliquer les mathématiques, elles sont différentes. Alors, essayons de voir cela. Premièrement, diversité au point de vue du corps. Une diversité à cause de la génération, de la procréation. La femme, la mère, est beaucoup plus unie à la procréation, puisque la formation du corps se fait en elle. Elle est donc intimement unie à tout le mystère de la procréation. Et son corps, sa sensibilité, est prise par là. Du côté de la procréation, il y a une diversité père et mère, qui fait une diversité personnelle. La point de vue de la sexualité et le point de vue de la procréation. Est quelque chose de substantiel, mais n'est pas premier pour l'homme et pour la femme. Mais c'est quelque chose de substantiel, second, fondamental. Quand je dis secondaire, je crois qu'il faut lui dire fondamental. C'est plus juste. Parce que ça a quand même une influence au point de vue de toute la vie. Le type père et mère. Je parlerai ensuite du point de vue religieux. Parce que ça, il faut en parler. Point de vue religieux et naturel, hein, donc et philosophique. Dire que l'homme n'est pas religieux, c'est une grave erreur philosophique. L'homme est naturellement religieux et la femme est naturellement religieuse. Et donc, cette distinction au point de vue de la procréation qui fait vraiment deux types. Père et mère. Mais père et mère se font au niveau de la procréation et ne sont pas au niveau de l'amitié entre l'homme et la femme. Il y a une amitié et cette amitié implique une similitude et une coopération. Alors, on y reviendra après, puisque c'est l'intelligence et la volonté. Il faut, je crois, bien distinguer le point de vue de la procréation, qui est quelque chose de fondamental au point de vue de l'homme et de la femme. Et qui fait que la distinction homme et femme au point de vue création, au point de vue procréation, est quelque chose de capital et a des conséquences sur la formation de la personne chez l'homme et chez la femme. Le point de vue de la procréation est substantiel, hein. Donc c'est pas quelque chose d'accidentel qu'on peut séparer, c'est quelque chose de substantiel. Et donc modifie profondément la personne de l'homme dans la paternité et la personne de la femme dans la maternité. Par le fait même, l'éducation de la petite fille et du petit garçon sont différentes. Aujourd'hui, elles tendent à être les mêmes, n'est-ce pas ? Au fond, elles sont différentes, puisque l'homme est appelé à être père et la petite fille est appelée à être mère. Donc, la première éducation avant la puberté, peut-être semblable dans la famille, mais elles sont quand même différentes. Le corps de la femme et le corps de l'homme sont bâtis en fonction de la procréation et pour la procréation. La procréation finalise le corps. Et c'est très important de comprendre ça. Finalise le corps, aussi bien de l'homme que de la femme. C'est l'opération dominante et la plus parfaite au point de vue corporel. Et parce que c'est l'opération dominante et la plus parfaite au point de vue du corps, nécessairement, le corps est distinct et ils sont complémentaires. Donc là, on peut dire qu'il y a vraiment deux personnes différentes, celle du père et de la mère. Si je ne vois que le point de vue de la procréation, alors, il faut bien voir que le point de vue de la procréation n'est pas la fin absolue de l'homme et de la femme. Il y a un dépassement de cette fin particulière qui est le développement de l'intelligence et de la volonté. Et le développement de l'intelligence et de la volonté chez l'homme et chez la femme est peut-être différent dans leur croissance, mais sont les mêmes dans leur spécification. L'âme de l'homme et l'âme de la femme sont les mêmes, spécifiquement. Vous voyez qu'on retrouve toujours cette distinction du spécifique et du point de vue de l'exercice. Et ça, c'est capital. Spécifiquement, l'intelligence est la même. Mais le point de vue de l'exercice est tout de suite différent, puisque le corps est impliqué immédiatement dans l'exercice. Et parce que le corps est impliqué immédiatement dans le développement de l'intelligence et dans le développement de la volonté, encore plus, il va y avoir, par le fait même, un mode différent d'exercer l'intelligence et surtout la volonté dans l'amour. Puisque la volonté est d'abord faculté qui me permet d'aimer et ensuite faculté qui me permet d'exercer. Alors, essayons de préciser quels seront les modes différents de l'homme et de la femme. C'est au niveau de l'exercice et de la finalité que nous pouvons préciser, parce que le point de vue du corps agit essentiellement sur la formation de l'intelligence. Et la volonté s'exerce différemment chez l'homme et chez la femme. Alors, l'intelligence s'exerce différemment sur l'imagination. L'imagination féminine et l'imagination masculine sont spécifiquement les mêmes, mais différentes dans leur développement. Or, le développement de l'imagination est spécifique dans l'imagination. C'est le propre de l'imagination. Et c'est le caractère propre de l'imagination. L'imagination se crée ses fantasmes, se crée ses images. Et donc, l'imagination, dans son exercice, se crée. Et elle crée ses images. C'est la seule faculté humaine dans laquelle le point de vue de la spécification et l'exercice sont un. Et je ne peux pas les séparer. Ce qui fait que l'imagination féminine et l'imagination masculine n'est pas la même. Et spécifiquement, il faudrait presque dire théoriquement, elle est la même. Mais dans sa formation même, elles ne sont pas la même. Et c'est peut-être cela qui est le plus important et le plus intéressant à voir. L'imagination dépend énormément de la sensibilité. Notre imagination est dépendante de la sensibilité, en ce sens que ma sensibilité me mon imagination. L'imagination n'est pas en contact direct avec la réalité. Ce qui est en contact direct avec la réalité, ce sont mes sens. Mais les sens de la femme et ceux de l'homme sont les mêmes. Mais comme le milieu où s'exerce ses sens est différent, l'imagination est différente. Elle est différente. Spécifiquement, ce sera toujours l'imagination. Mais le spécifique de l'imagination, c'est l'imagination qui se le donne. C'est ça qui est très curieux. L'imagination a ce pouvoir très particulier de se former elle-même. Vous n'avez pas d'objet imaginatif. Quel est l'objet de l'imagination? C'est l'image. Et l'image, qu'est-ce qui la forme? C'est l'imagination. Vous savez, cette chose très curieuse, que l'imagination, elle trouve son objet d'une façon immanente. Vous n'avez jamais vu, hein, dans la réalité, quelque chose qui est imaginable. Tout ce qui est imaginable est imaginable du dedans, par vous. Vous formez votre imagination. Vous l'éduquez, votre imagination. C'est pour ça qu'on dit que c'est la folle du logis. Parce que vous l'éduquez très difficilement. La grande difficulté, c'est la formation de notre imagination. On est comme conduit par son imagination. L'imagination joue un rôle extrêmement important pour l'éducation. Et la la diversité entre l'homme et la femme, elle se fait au niveau imaginaire. Elle est à la fois unie, parce que c'est toujours l'imagination. Mais la femme a des images faites comme celles que l'homme en a. Mais, étant donné que nous n'avons pas un contact direct avec la réalité par l'imagination, que le contact de la réalité avec l'imaginaire passe toujours par les sens. Votre imagination n'est pas objective, elle est subjective, elle est éminemment subjective, elle est principalement subjective. Vous formez vos images, et vous formez vos images en fonction de vos sens externes. Mais vous formez vos images. Vous êtes objectif dans votre vision. Vous êtes objectif dans votre toucher. Mais vous n'êtes pas objectif dans l'imaginer. Et c'est ça que les modernes ne voient pas suffisamment. Le traité sur l'imagination dans Aristote est particulièrement intéressant. Parce que Aristote montre bien que l'objet d'imaginaire est quelque chose que nous formons. C'est pour ça que l'imagination a des fantasmes extraordinaires. L'imagination crée, on pourrait dire, si vous voulez, que l'imagination crée ses objets. Bon, elle les crée en fonction d'une base commune. Et notre base commune, elle est donnée par nos sens extérieurs. Nos sens extérieurs regardent le même univers. Vous n'avez pas un univers différent, homme et femme. Vous avez le même univers. Mais cet univers, vous le vivez différemment, intérieurement, tout de suite. Bien que ce soit le même, il est vécu différemment par l'imagination. L'imagination et la cogitative, ensemble. Vous vivez différemment, en raison d'une finalité différentes. Alors, la différence entre l'homme et la femme va se retrouver dans l'intelligence, puisque l'intelligence se sert des images. Oui, on pourrait dire que le monde des images est différent chez l'homme et chez la femme. Et je crois que c'est là où constamment la diversité se fait sentir dans les discussions. Et c'est très difficile à bien préciser. Parce que la même source de l'imaginaire est la même pour l'homme et la femme. Puisqu'il y a un seul univers, mon univers à moi objectif est le même que celle pour la femme. Quand je vois cet arbre, la femme le voit aussi. Il n'y a pas un arbre pour la femme et pour l'homme. Donc, c'est le même. Donc, les sens externes sont les mêmes. Les sens externes sont au point de départ de l'imaginaire. Mais comme l'imagination, c'est l'imagination du sujet, comme la volonté, et l'imagination est très liée à l'affectivité, plus qu'à l'objectivité, c'est là où, sans doute, il me semble que la diversité va se faire sentir. Oui. Parce que l'élément affectif est plus puissant chez la femme que chez l'homme, ordinairement. Et cet élément affectif étant plus puissant, il agit d'une manière plus forte sur les images. La femme est plus dépendante que l'homme de l'affectivité. L'intelligence de la femme et la volonté de la femme sont les mêmes, mais leur exercice est différent. Parce que leur exercice dépend de leur corps, dépend du milieu. Et par le fait même, la diversité interne va se trouver dans les relations différentes entre l'intelligence et la volonté. La diversité va se trouver par rapport aux images. Mais cette diversité n'est pas spécifique. Elle est uniquement du côté de l'exercice. Alors, si vous ne voyez que l'exercice dans la féminologie, on ne voit que l'exercice, il y aura une diversité beaucoup plus grande entre l'homme et la femme, pour eux, dans la féminologie, que en réalité, c'est uniquement du côté du mot. C'est pas du côté de la ratio. La femme définira l'homme comme l'homme le définit. Genre et différence spécifique. Il n'y a pas de logique spéciale pour l'homme et la femme. On dira rien. Il dira que la femme n'a pas de logique. Hein. Les hommes disent ça souvent. De temps en temps, à Fribourg, je prenais souvent, du moins quand l'occasion se présentait, les petits trains qui s'arrêtent tout le temps. Alors c'est très amusant d'entendre les conversations. Des braves femmes ordinairement, puisque les hommes travaillent toute la journée là, qui prenaient ce train. Et alors on entendait les conversations. Et les conversations ne sont pas les mêmes dans un milieu d'hommes et dans un milieu de femmes. Et les conversations viennent du côté imaginatif. C'est l'imagination. Il n'y a pas deux philosophies, une philosophie féminine, une philosophie masculine. Parce que là, on est au-delà de l'imagination. D'où la grande diversité, il y aura la diversité du corps, c'est sûr, mais celle-là, elle peut être dépassée. La grande diversité vient du côté imaginatif. Le lien de l'imagination et de l'intelligence et de la volonté. Alors, il y aura des hommes qui seront proche des imaginations féminines. Là, c'est vrai. Il y a des hommes qui sont loin de cette imagination et c'est typiquement d'hommes. Autrement dit, l'homme est beaucoup plus logique que la femme. Il y a une différence au point de vue logique. C'est pas étonnant. Parce que la logique, c'est pas la métaphysique, c'est un art. Alors, y a-t-il un art féminin et un art masculin? Ça oui. On verra que la femme, dans certaines parties artistiques, est plus vite compétente que l'homme. À Fribourg, je connaissais une femme qui était très compétente dans le fait de raccommoder ou de les vieux tissus. Et même, on lui a demandé, parce qu'elle est particulièrement compétente, d'aller voir la tunique à Aix. À Aix-la-Chapelle, la tunique du Christ. Et sous-vert. Et alors elle m'a dit, parce qu'elle devait voir si on pouvait encore travailler cette tunique, c'est-à-dire voir s'il tenait debout, ou si elle était complètement ravagée. Elle m'a dit, quand on a enlevé le verre, il a gardé, il est tombé en poussière. Alors on peut la voir, et quand on la touche, c'est très intéressant ça. Il est bien évident que remettre la couture, si vous voulez, est plus féminine que masculine. Ordinairement. Alors que pour d'autres arts, la taille des pierres est plus masculine que féminine. On pourrait lancer les tailleuses de pierres. Il y aurait des distinctions comme ça, très curieuses. Et c'est toujours le rapport de l'imaginaire et de la raison. Et le rapport de l'imaginaire et de la raison joue alors, là, beaucoup. Parce que l'imaginaire est très lié à l'affectivité. Beaucoup plus. Alors, il y a un imaginaire affectif, il y a un imaginaire logique. Ah. L'imaginaire affectif, c'est une âme romantique. Le romantisme est plus féminin que masculin. Et l'imaginaire lié à l'intelligence est un imaginaire beaucoup plus logique et mathématique. Les mathématiques, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Toutes les intuitions, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Et les mathématiques, c'est dans ce développement-là. Alors, il y a plus d'hommes mathématiciens que de femmes. C'est très curieux de rencontrer une femme très mathématicienne. Il y a quelque chose qui n'est pas féminin. Rencontrer un homme mathématicien, ça va avec le caractère de l'homme. Vous voyez, au fond, c'est très subtil, hein. Vous avez au point de vue la vie végétative, donc le genre, on le distingue nettement. Mais ce genre se répercute tout de suite sur la formation par l'imagination. Et c'est l'imagination qui est le métaxu. C'est l'imagination qui fait le passage de la diversité physique à la diversité spirituelle. Tout passe par l'imagination. De sorte que la diversité des personnes, masculin, féminin, est très fort dans le point de vue, doit se comprendre par le point de vue imaginatif. C'est l'imagination qui sera source de diversité. Parce que vous avez une imagination plus affective et une imagination plus rationnelle. Et là, vous auriez un troisième type d'imagination, qui serait l'imagination artistique, qui n'est ni affectif, ni rationnel, mais qui très facilement est en liaison avec le rationnel. Alors vous avez l'imagination poétique. Et la diversité se prendrait au niveau de ces diverses manières d'unir l'imagination à la sensibilité, à la raison, aux intuitions. Et au fond, vous pourriez là préciser le mode différent de la personnalité.